Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Geek. On retrouve comme chaque semaine Marjorie Glénisson. Salut Marjorie, ça va ?
Salut à tous !
Et cette semaine, notre chroniqueur préféré, et tant pis pour les autres, c'est Ludo. Salut Ludo, ça va ?
Salut, ça va.
Ludo, on te retrouve sur internet aussi, sur des vidéos Génération Geek, sur les vidéos La Ludothèque à Ludo, dont la première version est sortie, où tu nous parles du World of Yo. Un petit mot là-dessus, avant qu'on parle du cœur même de l'émission.
Et bah du coup le but de l'émission c'est de faire une partie, de s'amuser, de vous montrer un peu comment on s'amuse sur un jeu, etc.
Et World of Yo, c'est un jeu ?
World of Yo, alors c'est un jeu un jeu de société qui nous permet de jouer avec nos smartphones. Donc il permet en fait de pas apprendre 50 pages de règles.
Voilà, on est en mi-chemin entre le jeu et la réalité augmentée. Et bien là on va parler de réalité virtuelle avec nos invités. Nous avons à côté de toi Ludo, Florian. Salut Florian.
Bonsoir.
Tu peux te présenter en un mot, dire qui tu es, d'où tu viens et quelles sont tes compétences, qu'on sait nombreuses.
Bonjour, je m'appelle Florian, je suis technicien de maintenance informatique au magasin e-concept à Alençon. Je prépare et j'assemble des PC.
À côté de moi, il y a Florian aussi. Salut Florian.
Bonjour, donc je suis Florian, développeur R&D dans une start-up à Paris.
Et à côté de toi, Pierre.
Donc Pierre, collègue de Florian, également chez e-concept à Alençon. Et passionné de jeux vidéo.
Alors l'idée de cette émission, c'est de parler de la réalité virtuelle, alors notamment avec le casque de réalité virtuelle qu'on a pu tester ici au Festival des Imaginaires Ludiques, mais pas que. Première question, qui est-ce qui veut se lancer pour nous présenter ce que c'est que la réalité virtuelle ? Allez, on tire à pile ou face, courte paille. Vas-y Pierre.
Je vais commencer, mais je vais d'abord expliquer les trois technologies. Il y a trois technologies qu'on entend souvent, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la vision à 360 degrés. Donc on mélange un petit peu tout. Bien souvent, la réalité virtuelle, c'est on plonge la personne dans une réalité qui n'est pas réelle, dans un univers compilé et imaginé sur ordinateur. Donc c'est pour ça qu'on dit réalité, parce qu'on s'y croirait, et virtuel, parce que c'est pas la réalité, c'est virtuel. Bien souvent, on mélange la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est sur de la réalité, donc ce qu'on vit au jour le jour, on vient ajouter de l'information. Donc, à travers des outils, une paire de lunettes, par exemple, on viendrait, sur la paire de lunettes, rajouter de l'information. Là, je regarde la caméra, le caméraman derrière. Je pourrais avoir dans ma lunette l'information que la caméra tourne et le prénom de notre caméraman.
Un excellent exemple de réalité augmentée, c'est le jeu Pokémon Go,
voilà,
où on peut attraper des Pokémon avec son smartphone et on a l'impression qu'ils sont dans le salon, dans la cour, dans la rue.
C'est exactement ça.
Le troisième.
Et la vision à 360 qui peut venir s'incorporer dans la réalité virtuelle, c'est quand je tourne la tête, je suis dans un décor virtuel et je vois ce qui se passe à ma gauche, je vois ce qui se passe à ma droite, au-dessus et derrière. Donc je suis plongé dans un environnement à 360 degrés. Voilà. Et donc les casques de réalité virtuelle qu'on a aujourd'hui sur le salon en démonstration mélangent à la fois la réalité virtuelle et la technologie 360 degrés. On peut avoir des casques de réalité virtuelle qui reste sur un axe à 180 degrés, par exemple.
Alors, l'émergence de cette réalité virtuelle avec la vision 360 degrés, c'est l'année 2015 à peu près, on a commencé à entendre parler des premiers prototypes en grand public à peu près, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir les Kickstarter sur l'Oculus Rift, etc. 2015-2014.
Donc, le premier vraiment projet industriel, c'est l'Oculus Rift et c'est début 2013 pour les premiers prototypes. Sachant que le modèle commercial est sorti il y a quelques mois seulement.
Et par contre, c'est ça, c'est-à-dire que l'explosion pour le grand public, alors le grand public, pas si large que ça, parce qu'on le verra après, les prix sont conséquents et donc c'est pas tout le monde qui va avoir dès demain chez lui son casque. C'est vraiment cette année 2016 et 2017 avec l'Oculus Rift qui est sorti ou qui va sortir ?
Qui est sorti depuis 2 mois.
Le HTC Vive, pareil, qui est sorti depuis 3-4 mois.
Environ 6 mois.
Mmh. Et il y a encore plein d'autres projets, puisqu'il y a PlayStation VR, je crois, il y en a encore d'autres.
Oui, il y a deux différents projets qui ont quand même moins d'importance que l'Oculus et le Vive, mais qui sont quand même importants, oui.
Et alors ça va très très vite parce que on voit même avec l'Oculus Rift ou avec le HTC Vive, il faut une grosse machine pour faire tourner ces casques de réalité virtuelle et on commence à voir des projets de sac à dos qui auraient cette grosse machine dans le sac à dos avec une batterie, etc. Donc on sent qu'il y a une accélération, j'ai l'impression, de plus en plus vers ce domaine de la réalité virtuelle et de la vision 360. Comment vous l'analysez les uns les autres, cette vitesse accélérée de l'émergence de ce produit, Florian?
Ah, c'est simplement une démocratisation de la technologie. Les premières machines, demandaient une véritable tour bien conséquente pour faire tourner ce genre d'appareil. Maintenant, avec la puissance qui augmente, ça va se miniaturiser de plus en plus, quoi. Donc ça, c'est pas étonnant quelque part. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, il est vrai qu'il faut encore une machine conséquente à l'heure actuelle pour faire tourner ce genre de technologie. J'estime que d'ici 2 ans, on aura bien diminué au niveau prix et au niveau taille le matériel nécessaire. Pour l'instant, c'est surtout des professionnels qui aiment ce genre de technologie.
Alors notre technicien, notre ingénieur à nous, c'est Ludovic. Ludovic, je te laisse carte blanche, je te laisse ta salve de questions sur la partie technique, justement, le comment ça marche.
Alors, effectivement, comment ça marche, comment on arrive à justement créer cette impression de 3D, cette impression justement de ne pas avoir ce décalage par rapport à la réalité, de ne pas avoir juste 2 écrans qui affichent la même chose sur nos 2 yeux. Comment est-ce qu'on arrive à justement émuler cette réalité 3D sur 2 yeux différents ?
Alors, pour faire ça, il y a plusieurs technologies. Tout d'abord, juste pour l'impression de 3D, il y a 2 images affichées qui sont complètement différentes et légèrement décalées par rapport aux yeux pour respecter la réalité, en fait. Donc ça, c'est juste pour voir la partie 3D. Après, pour la partie sensation, il y a aussi un temps de réaction très, très faible entre les interactions, donc le clavier, la souris, la manette ou bouger la main, et la vue. Parce que s'il y a un temps de latence très important, il y aura une sensation de mal-être, de mal de mer, qui peut être désagréable.
Le mal de mer, justement, on peut décrire le processus assez rapidement. Typiquement, on est en voiture, le corps ne bouge pas. Par contre, ce qu'il y a au niveau de la vision autour de nous bouge, et donc le cerveau, il bug. Là, c'est le mot qu'on pourrait utiliser pour l'informatique. Le cerveau bug, et donc on a une sensation de mal-être, et certains sont très sensibles au mal de mer. C'est le même principe sur les jeux, et particulièrement sur ces casques-là. S'il y a ce fameux décalage, si le corps et le cerveau et la vision ne vont pas ensemble, ça bug et on vomit. Et vomir dans un casque, c'est moche. C'est ça. Hein.
Tout à fait, oui. C'est l'oreille interne qui est décalée par rapport à la vue. Oui.
Alors ça, c'est l'aspect un peu... sur l'aspect, parce qu'on est en radio, on a du mal à s'imaginer justement ce que c'est que ce casque. J'ai dit vomir dans un casque, c'est moche. En fait, on s'en fout parce que le casque, il n'est pas sur la bouche. Techniquement, justement, comment c'est construit ? Il y a ces 2 écrans. Le reste du casque, il est composé de quoi ? Il y a des câbles, il y a des manettes, il y a quoi ?
Alors, il est composé de capteurs laser, de capteurs infrarouges pour détecter les lumières infrarouges qui sont émises par 2 parties distinctes à chaque extrémité de la pièce. Il est composé également de gyroscopes pour détecter les rotations de la tête par rapport à l'espace. Et également d'une partie électronique pour envoyer tout le signal vidéo, enfin envoyer le signal des inputs, donc des commandes, et recevoir le signal vidéo du PC.
Alors moi c'est marrant, mais Marjorie tu vas compléter, je suis sûr, mais moi ça me fait penser à Avatar, la réalité virtuelle, sur le design. Je sais pas si vous vous rappelez, dans Avatar, les Navis, ils ont une espèce de très très longue tresse derrière, et quand ils prennent leur tresse dans leurs mains, il y a une espèce de câble au bout qui peut se connecter à tout et n'importe quoi. Et ben ces casques là, on a une longue tresse derrière parce qu'il y a les différents câbles pour les connexions, pour l'image, etc. Ça te fait penser à ça aussi, toi ?
Oui, totalement, mais ça m'étonne pas qu'il y ait des influences entre la technologie et les films. De toute façon, il y a une longue histoire d'amour entre la science-fiction et la réalité.
Et puis Avatar, c'est un des premiers films qui a très bien marché sur la 3D, justement. Est-ce que ça s'y prête bien pour la... je suppose que ça se prête très bien à la 3D, les casques de réalité virtuelle. Voir Avatar en 360 degrés avec une impression de profondeur, ce serait jouable ?
Alors, tout à fait, mais pas avec les technologies d'aujourd'hui, puisque la résolution est très limitée par rapport à ce qu'on peut voir actuellement sur des écrans LCD classiques. Il faudrait une résolution à peu près 4 fois supérieure, au moins, pour avoir une vraie impression de réalité, on va dire.
Pierre, les usages de cette réalité virtuelle, tu le disais, tu es fan de jeux vidéo, donc on a évidemment cette idée qu'il y a plein d'usages dans le jeu vidéo. On avait nous-mêmes sorti une vidéo sur les zombies, où Clément, qui est notre spécialiste jeux vidéo, attendait avec impatience, c'était quel jeu d'ailleurs, Marjorie qui...
Left 4 Dead,
voilà, en réalité virtuelle. Donc quel jeu vidéo qui est un des usages, mais il n'y a pas que ça.
Oui, il n'y a pas que les jeux vidéo, effectivement. Pour donner à peu près une idée des débouchés de la technologie, on va prendre le casque HTC Vive. Quand il est sorti, on avait une 20aine d'applications disponibles sur le store, donc
le magasin d'applications.
Voilà. Aujourd'hui, on a plus d'une 15aine de pages. Voilà, donc c'est énorme. En l'espace de 6 mois, l'offre a été multipliée par 30, pour faire simple. Alors ça va de, d'applications, par exemple, je vais prendre un exemple IKEA. Tout le monde connaît IKEA. IKEA, c'est le premier fabricant de cuisine au monde. Il représente la moitié des cuisines vendues dans le monde. IKEA a développé une application qui permet à tout un chacun de modéliser sa cuisine, mettre ses équipements, mettre ses caissons, choisir la couleur de sa cuisine et de tester sa cuisine en réalité. C'est-à-dire, on ouvre la machine à laver pour voir si on peut encore circuler quand la machine est ouverte. On se met à la taille d'un enfant pour voir si on ne va pas se prendre un tiroir ou un placard. On peut calibrer la hotte pour ne pas se la prendre dans la tête. On choisit les petits boutons qu'on va mettre sur les portes et on regarde si l'ensemble nous convient. Voilà. Donc ça, c'est un usage que les entreprises commencent à concevoir, à réfléchir et que les gens peuvent facilement télécharger, installer, utiliser. Ça va déferler dans les années qui viennent. On parlait tout à l'heure des machines qui devenaient maintenant suffisamment puissantes. Voilà. Demain, pour Noël, les consoles de salon auront leur casque. Un casque, ça coûtera à peu près 400 euros à Noël. Donc les industriels ont bien compris ça. Ils vont sortir des applications. Ils vont, voilà, sachant que le grand public sera équipé d'ici 2 ans, 3 ans, on aura un équipement dans tous les foyers. Et ben les professionnels sortent les applications et très vite maintenant.
Alors pour le coup, un domaine très technique, très particulier, notamment la chirurgie. Est-ce que ça permettrait pas justement à des chirurgiens d'opérer
Oui. Alors le problème de la chirurgie, c'est qu'il faut pas de latence dans la connexion. Voilà. Donc là on est plus sur le problème de la puissance. On n'est pas sur le problème de la qualité d'image. On est sur le problème de la connexion Internet. On peut pas se permettre une coupure. On peut pas se permettre une latence. C'est déjà le cas aujourd'hui, hein, ça fonctionne déjà.
Il y a déjà des opérations qui sont à distance. Un chirurgien très renommé qui opère à Los Angeles sur un micro-robot, enfin sur un robot chirurgien en France. Mais effectivement, il faut réserver de la bande passante plus pour...
Voilà, aujourd'hui c'est encore anecdotique, on va pas se le cacher. C'est beaucoup d'aide, c'est plutôt de l'assistance à une personne qui va être sur place pour faire l'opération. Mais à terme, effectivement, on remplacera totalement, enfin on aura quelqu'un qui travaillera à distance. Voilà.
Florian ?
Sans parler évidemment que parmi les technologies qui sont en train d'essayer d'être développées en ce moment, on parle actuellement, quand on prend l'HTC Vive ou l'Oculus, et ce qui nous permet d'interagir avec le virtuel, c'est 2 manettes. Mais plus tard, ils sont en train d'essayer de faire ça. C'est des gants qui représentent vraiment les mouvements de la main, ce qui faciliterait à long terme. Je veux revenir aussi sur le fait qu'actuellement, quand tu parlais des navis avec le câble qui se connecte, Actuellement, les technologies actuelles ne nous permettraient pas de faire un casque de réalité virtuelle sans un câble. Le flux de vidéo est trop important pour le faire en sans fil à l'heure actuelle. Voilà.
On peut imaginer que d'ici quoi, 5 ans, 10 ans, sans fil, le débit soit suffisant pour pouvoir balancer directement le flux ou pas ?
À la vitesse que, que ça avance, oui, je pense que c'est complètement crédible. Quoi.
Alors, sous les applications encore de la réalité virtuelle, on a des dessinateurs ici sur le fil. Ils sont venus tester tout à l'heure le HTC Vive. Et il y en a un particulièrement qui m'a dit « Ah, j'ai testé l'application de dessin, enfin qui est plus de la sculpture finalement. » Ils ont adoré. Donc ça, le côté culturel et artistique, je pense qu'il y a une vraie envie d'utiliser ces technologies-là. Alors, soit pour s'entraîner à sculpter dans le vide sans utiliser de matière ou sans avoir les contraintes de force, mais aussi peut-être pour créer des récits. Vous avez déjà rencontré effectivement des gens qui ont cette envie d'imaginer quelque chose de culturel ou d'artistique lié à ça ? L'un, l'autre, qu'est-ce qui...
Oui, moi j'ai déjà rencontré des personnes qui se projettent. Beaucoup de jeunes disent « moi je veux travailler dans le jeu vidéo, j'ai envie de créer des jeux vidéo ». Et aujourd'hui on a ce décalage, ces jeunes qui voulaient créer des jeux vidéo, aujourd'hui ils veulent créer des univers virtuels. C'est-à-dire que c'est plus créer un univers de jeu, mais un univers dans lequel les gens vont pouvoir se promener. Donc, à travers effectivement des outils de dessin comme celui qu'on peut essayer, le logiciel de Google qui s'appelle Tilbrush, qui permet donc de dessiner en profondeur aussi bien sur les trois axes, mais aussi bien de concevoir des univers dans leur ensemble. Voilà.
Moi aussi, je suis fan de jeux vidéo. Et hormis alors les jeux de, je vais qualifier un peu grossièrement d'aéronautique comme War Thunder ou Fractured Space ou des jeux comme ça où on va contrôler une navette ou un avion, des choses comme ça, en termes de jeux vidéo, j'ai du mal à voir quelle application intéressante, enfin est-ce qu'il y a des jeux vraiment performants, intéressants qui sortent sur ce genre de structure?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'offre pour les vrais jeux vidéo complets est assez limitée, mais elle est amenée à se développer dans le futur. Certains gros éditeurs ont mis beaucoup de ressources pour développer des jeux compatibles Oculus Rift ou HTC Vive.
C'est une question d'économie d'échelle, encore une fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de possesseurs de casques de réalité virtuelle. Si on met, j'ai une bêtise, mais 20 ou 30 millions d'euros sur un jeu exclusivement pour l'un ou l'autre des casques, ou même pour les deux, on s'adresse aujourd'hui à un public qui est assez petit encore. Mais par contre, l'idée, c'est de se dire, demain, il y aura du monde.
Exactement. Oui.
Et est-ce que vous pensez que... Alors moi, je suis fan de cinéma, donc forcément, je pose la question. Je ne sais pas encore si quelqu'un a trouvé la réponse à ça. Mais est-ce que vous pensez que dans très peu de temps, en enfilant un casque de réalité virtuelle, on pourra regarder un film et être dedans ? Parce que ça, les amateurs de cinéma aimeraient bien.
Deux contraintes à ça. Il faut que le film soit filmé en 3D. Et en véritable 3D, ce qui est aujourd'hui absolument pas le cas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une simple caméra ou même une double caméra qui peut filmer un film en réalité virtuelle. C'est un faisceau de caméras et un double faisceau de caméras. Donc c'est compliqué à mettre en place. Alors seuls les films comme Avatar qui sont calculés par ordinateur, donc qui sont pas vraiment, enfin, sont filmés en partie, mais surtout calculés par ordinateur, ont vraiment une possibilité d'être visionnés en réalité virtuelle. Donc dans réalité virtuelle, il faut pas oublier ce mot virtuel. On n'est pas dans le réel. Donc les films réels ont vocation à rester en deux dimensions et regarder de manière réelle, comme on le connaît aujourd'hui. Par contre, des films qui sont calculés par ordinateur, eux ont vocation à être regardés en réalité virtuelle. La puissance de calcul augmente régulièrement et quand on voit des scènes de films calculées par ordinateur, les scènes calculées par ordinateur sont de plus en plus réelles, nous paraissent de plus en plus réelles et sont de plus en plus vraies. Et donc on pourra bientôt avoir des films qui seront, je ne vais pas dire plus vrais que nature, mais presque vrais comme nature. Et là, effectivement, on se rapprochera de... on pourra proposer des films concret, la puissance capable et les casques capables d'afficher une qualité correcte vont arriver dans 3-4 ans, on aura vraiment des casques top en termes de qualité d'image. Mais voilà, il y aura toujours une place pour le film 2D, quoi qu'il arrive.
Ça me rassure.
Mais les personnes qui viendront voir un film à sensation, ils ne le regarderont plus au cinéma, ils iront le voir chez eux sur leur casque. Voilà.
Et puis sur la vidéo, il y a un autre usage que celui du film, parce que dans le film, il y a une narration. Si l'action se passe derrière la personne qui regarde, ça peut être un peu compliqué de diriger la narration. Par contre, le fait de filmer avec des caméras à 360 degrés, ça peut être aussi pour plein d'autres applications, le tourisme par exemple. On n'a pas tous les moyens de se payer un billet d'avion toutes les 3 semaines pour aller visiter un jour le Machu Picchu, l'autre jour l'Himalaya et enfin la Grande Muraille de Chine. Par contre, chez soi, pouvoir enfiler le casque et déambuler sur la Muraille de Chine, ça doit être génial. Et les technologies sont déjà présentes parce que Google Street, c'est déjà ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est un sac à dos, plein de caméras au-dessus de la tête, et puis on prend les images.
Oui, par contre, t'es quand même limité à où la caméra est passée quand ils ont filmé à ce moment-là.
C'est pas on peut pas se déplacer, on suit l'action, c'est ça ?
Bah, en gros, si tu veux, la caméra, si on prend le cas de la Muraille de Chine, on pourrait croire que la caméra a parcouru le long de la Muraille de Chine, sa hauteur, tu vas pouvoir faire toute la longueur, et par contre, tu pourras pas descendre au pied de la muraille ou des choses comme ça. Donc tu es quand même limité.
C'est une visite guidée finalement, c'est-à-dire qu'on s'assoit dans le fauteuil et on se laisse emmener.
C'est comme disait Pierre, c'est la différence entre le réel et le virtuel. Quand c'est calculé par ordinateur, tu peux vraiment aller où tu veux. Si tu fais du réel, tu es obligé de te cloisonner là où ça a été filmé, quoi.
Alors l'aspect un petit peu technique et financier, on parlait de 400 euros dans quelques années pour le prix d'un casque de salon sur sa console. Aujourd'hui, c'est quoi les modèles existants ? C'est quoi leur prix ? C'est quoi leurs avantages, leurs inconvénients les uns les autres ? Et puis derrière, il faut quelles ressources, quelles machines pour les faire tourner et du coup avec quel budget aussi ?
Alors aujourd'hui, que ce soit l'Oculus Rift ou le HTC Vive, pour un casque avec contrôleur, il faut compter à peu près un peu moins de 1 000 euros, donc 900 euros on va dire. Par contre, pour la configuration, pour faire tourner la machine qui fait tourner ce type de casque, il faut compter entre 1 000 et 1 500 euros au moins.
Alors après, cette machine-là, elle n'est pas dédiée au casque. C'est-à-dire que le casque, c'est un accessoire. On peut quand même aller sur Word dessus.
Bien sûr. Qui paye le plus, paye le moins.
Je le précise parce que ça paraît pas toujours évident. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'acheter le casque à 900 euros, la machine à 1 000 euros et un autre PC pour aller sur Internet. On peut faire pareil avec le même.
Oui, d'accord. C'est l'avantage d'être polyvalent du PC. Oui.
C'est l'avantage. D'autres questions, Marjorie, Ludo ?
Bah moi, j'étais rassurée sur le cinéma, alors ça va.
Voilà, donc ça te convient ?
Moi, je vais bien.
Pareil pour les jeux vidéo.
Donc vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous écoutez.
Nous, on est bien, voilà.
Vous êtes à la maison.
On profite.
Messieurs, des choses à rajouter sur les usages ?
Oui, pour Marjorie. Qui est rassuré mais qu'à moitié. Je vais te dire, le prochain Star Wars sera encore au cinéma. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, tu auras des Star Wars en réalité virtuelle qui sortiront plus au cinéma.
Ah non. Ah ben ça me rassure pas là.
Moi, j'adorerais interpréter un Jedi. Ce serait magnifique ça, de pouvoir avec un des contrôleurs de l'Oculus Rift ou du HTC Vive ou d'un autre, appuyer sur le bouton et avoir un sabre laser qui sort devant les yeux et le manipuler. J'ai déjà joué à des jeux comme ça de Jedi, mais pouvoir
alors
le faire.
Ça fait tellement longtemps que tu fais semblant d'être un Jedi avec une fourchette et un couteau.
Ça sera pas possible.
Franchement, quand tu pourras le faire pour de vrai, ce sera bien.
Ça sera pas possible. Je te donne juste un exemple. Ton sabre laser. Quand il va croiser le sabre laser virtuel de Marjorie qui jouera avec son propre casque dans la pièce d'à côté, et ben vous, il n'y aura pas l'impact de sabre, donc ça ne marchera pas.
Est-ce qu'il peut y avoir un calcul comme ça justement, parce qu'on y pense sur les volants, il y a des volants pour faire des simulations de rallye avec retour de force. Est-ce qu'on peut imaginer justement que si avec mon sabre laser je touche le sabre de Marjorie, j'ai une petite vibration dans la main qui fasse quelque chose? Alors ça n'arrêtera pas mon bras, j'imagine, mais
vibration, oui, c'est le principe du retour de force, donc c'est le petit moteur qui tourne. Par contre, pour bloquer une main, ça, c'est pas possible aujourd'hui avec la technologie actuelle.
Et si on imaginait, alors on va faire de la science-fiction, hein, imaginons que mes bras soient équipés, alors j'ai quelque chose aux épaules, mais surtout aux coudes, et puis effectivement, quand ça rencontre le sabre laser de Marjorie, eh bien, l'espèce de coudière que j'ai, hop, elle se bloque et verrouille mon bras. Ça pourrait être jouable, ça ?
Avec un exosquelette, c'est possible.
Ce serait chouette, ça.
J'ajoute que je te conseille fortement de déposer ton brevet rapidement. Parce qu'à mon avis, t'as moyen de faire de l'argent.
Trop tard, je vais le faire dès que je sors.
En fait, tu veux te transformer en Robocop, c'est ça ?
Ah oui, mais t'adores Robocop. Par contre, le casque...
J'aime bien Robocop, au cinéma.
Parce que le casque, il coupe à la moustache. Alors, c'est tout ça. Le travail que ça demande. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, pour toutes ces précisions. On peut l'essayer encore, ce HTC Vive, parce que le salon, il est fini ce soir, le Festival des Imaginaires Ludiques. E-Concept a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, sur Alençon à voir le HTC Vive et à le proposer en démonstration. C'est encore possible de venir l'essayer, ou quelle occasion on pourra le tester en tant que ou professionnel ou particulier ?
Effectivement, on a sauté sur l'occasion bien avant qu'il soit même sorti, parce qu'il y avait 3 mois de précommande pour pouvoir l'avoir. Donc on a cliqué dans les premières minutes où on pouvait l'acheter. Et ça a été ça a été relativement long. Donc oui, on fait des dates. Il y en a une début décembre qui aura lieu avec la Chambre de commerce. Le Bige, quand vous voulez, vous pouvez venir nous l'emprunter pour faire des démonstrations chez vous. C'est pareil pour Génération Geek. C'est pareil pour toute association qui veut un petit peu... venez nous le demander, on vous le prête facilement. Voilà.
Je pense que l'intérêt pour l'avoir testé avec toi Pierre, l'intérêt c'est d'avoir un peu le temps aussi. C'est-à-dire que quand on le teste sur un salon très très vite, 4-5 minutes, on voit quelques bricoles et c'est intéressant, ça donne envie. J'ai eu la chance de le tester avec toi pendant quasiment une demi-heure et c'est vrai qu'on ressort de là en ayant touché du doigt et mieux compris toutes les implications. Donc c'est vrai que voilà, je encourage effectivement les gens, s'ils le peuvent, à pouvoir prendre le temps d'avoir des tests un peu complets. C'est vraiment passionnant.
Voilà, sur des salons comme aujourd'hui, il faut imaginer qu'il y a 2000 visiteurs qui passent par la partie jeux vidéo. Encore quand je dis 2000, je pense que je suis en dessous des chiffres et des compteurs qui nous le diront. Donc on a très peu de temps pour chacun. Donc on fait des petites simulations d'une minute. Donc on va pas utiliser les capteurs, on va juste mettre le casque et faire vivre à chacun une petite expérience. En l'occurrence aujourd'hui c'était Space Mountain, enfin une petite montagne russe. C'est déjà pas mal. Mais quand on a effectivement une demi-heure devant soi, on peut aller beaucoup plus loin et interagir dans l'environnement. Et là, on découvre encore d'autres choses.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Florian. Merci Pierre. Marjorie, Ludo, on se retrouve bientôt.
À bientôt.
À la prochaine. Salut.
Salut.